Et on décolle tout de suite du Cap Sizun pour atterrir à Notre-Dame-des-Landes. À Plogoff, la résistance passait par les mots. À Notre-Dame-des-Landes, elle passe plutôt par l'occupation. On ne pouvait pas consacrer une émission au projet d'État sans parler de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Naïla Daleb et Brice Henry ont passé un week-end entier sur la ZAD, zone à défendre contre le projet d'aéroport. Il y a aujourd'hui plusieurs centaines de personnes qui habitent là-bas. Du rejet de l'aéroport à la construction d'un nouveau modèle de société, il n'y a qu'un pas. Les zadistes l'ont franchi et il y a bien longtemps. Sur place, production agricole, fabrication de pain, organisation d'événements culturels, la lutte se mène au quotidien. Cette lutte s'oppose à Vinci, mais aussi à l'État et aux collectivités locales. Bruno Retailleau, président des Pays de la Loire, a fait de l'expulsion de la ZAD son cheval de bataille. Nous l'avons interviewé en février dernier dans le cadre de la création de sa pétition contre la ZAD. Camille et Lucie ont guidé sur place nos deux journalistes, Naïla et Brice. Sur place, pas de porte-parole. Ils s'appellent tous Camille pour rester anonyme.
C'est quoi ZAD ? Zone à défendre, zone d'ancrage de dissidents, zone apatride délibérée, zone des arts délirants, zone d'arbres en danger, zone anarcho débridée, zone d'affinité différente, zone d'action déconditionnée, zone à danser, zone d'amour définitive, zone agricole délicieuse, zone d'abeilles dilettantes, zone allumée de désir. Je kiffe.
Je pense que la ZAD n'est pas évacuée, tout simplement parce qu'il y a une énorme responsabilité, bien sûr. Parce qu'il y a un chantage à la violence, bien sûr. Mais est-ce que ce chantage à la violence, est-ce que la République doit céder au chantage à la violence ? Eh bien, je pense que nos concitoyens pourront y répondre aussi à travers la pétition que nous lançons.
Qui pourrait nous dire pourquoi seule la FNSEA peut sur les murs des préfectures jeter du lisier des ordures, voire incendier la MSA ou martyriser quelques rats sans que l'on crie au hors la loi, sans que l'on bouge le petit doigt. C'est Retailleau, c'est Retailleau.
C'est encore une fois cette idée d'aller faire un signal, notamment à tous ces riverains qui eux-mêmes avaient fait une pétition. Ils ont recueilli, je crois, 1700 ou plus signatures. Et parce qu'ils ont eu ce courage de briser la loi du silence, ils ont eu des représailles. Voilà, donc on les abandonne pas, on est là. Et je pense qu'il faut que de temps en temps, la démocratie, c'est-à-dire la majorité, puisse s'exprimer par des moyens pacifiques, évidemment.
Évidemment qu'il y a un chantage à la violence, il y a un rapport de force qui doit s'installer et se préserver. Et c'est pas forcément un rapport de force militaire, parce qu'on ne tient pas le coup là-dessus. Quand il y a une attaque qui provient, qu'elle soit médiatique, il y a une réponse médiatique ou un acte, comme on relance l'appel d'offres, ils vont venir débroussailler, on va trouver les entreprises pour débroussailler, c'est ce qu'ils annonçaient en novembre dernier. Et nous, en janvier, on avait appelé de la même manière, un appel d'offres. Et il y avait une trentaine de chantiers à pourvoir et près de 800 personnes qui sont venues nous soutenir de partout. Ça va être ça aussi, le rapport de force. Et le rapport de force, ça peut être aux barricades quand les gens empêchent physiquement chose de passer.
Sa pétition, là, 1700 et quelques signatures dont ça a été prouvé que la plupart ont été falsifiées d'ailleurs. Et nous, ce qu'on peut répondre là-dessus, c'est qu'en fait, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est aussi et surtout 200 comités de soutien à travers la France. Ça rassemble plus de 40 000 personnes à chaque manifestation, sans parler de toutes les actions qui sont menées en France et à l'international, des messages de soutien qu'on reçoit du Chiapas, du Québec, du Kurdistan. Enfin, c'est une convergence des luttes qui est devenue internationale. Donc, nous, 1700 personnes qui ne sont pas très contentes de notre présence, ça nous fait bien rigoler à côté de tout l'espoir qui est suscité par cette lutte et par toutes les autres luttes et par le fait qu'on se mette en réseau et que, bah ouais, là, ça avance vraiment. Et ils ont bien raison de trembler parce qu'on va y aller, on va y aller à fond, quoi. Moi, c'est Lucie. Ça fait 2 ans quasiment maintenant que j'habite sur la zone. Et j'ai commencé par construire ma cabane, en fait, pour pouvoir avoir mon petit chez moi, faire cette expérience de construire son habitat.
Moi, c'est Camille. J'habite ici depuis 2 ans maintenant. Et ce qui me plaît à faire ici, c'est de construire, c'est de prendre part à des chantiers divers et variés, de m'essayer au maraîchage, de dessiner, de faire des affiches, de la com, ce genre de choses, de bouger, de rencontrer du monde. On est devant la façade sud. On a fait une petite terrasse devant pour faire un peu les rednecks américains sur notre canapé, regarder, pouvoir apprécier la beauté du petit arboretum, là, tu vois, il y a plein de fruitiers. Le petit enclos, là, sur la deuxième moitié, c'est pour des béliers, quand ils sont là. Là, on laisse l'herbe pousser pour leur retour. Puis là, t'as une ligne de pêchers, groseilliers, prunelliers, puis une ligne à venir, là, tu vois, on doit planter ça, là.
Il y a un peu de tout, on va les planter là.
Là ici au nord, on a entreposé du bois qui va devoir vieillir pendant... Voilà, peut-être que cette année on va pouvoir l'utiliser ou au moins le débiter pour accélérer son séchage parce que lui, c'est des haies qui ont été entretenues, donc c'est pas des arbres morts qui sont tombés. Donc il faut au moins 2-3 ans de séchage avant que de pouvoir faire du bon feu. Quoi. Là c'est les toilettes sèches. Donc on entrepose du matos aussi dedans. Là-dedans, on met la sciure de bois. On se garde toujours un peu de cendre parce que si on est en déche de sciure, ça peut dépanner quoi. Et voilà, on a essayé de faire un truc avec des matériaux facilement lavables. Là, c'est la salle de bain en devenir. Alors, on est en train de terminer le chantier, quoi. Donc, tu vois le bac de douche. Simple, on mettrait un rideau ici. Là, on mettrait un petit chauffage sur lequel on pourra chauffer l'eau et la pièce en même temps pour l'hiver. Pour l'été, c'est simple, on pendra là sur la façade blanche en dessous de la toiture transparente, on pendra une poche d'eau, là, d'une douche solaire. Et ce sera très bien, on la suspendra là, on pourra prendre notre douche ici et ne plus faire notre baluchon de douche à chaque fois qu'on va rendre visite à des copains. Quoi. Toutes les toitures communiquent et tout est centralisé dans cette tonne à eau, là. Donc on a 1000 litres d'eau en continu pour la vaisselle, pour se laver, pour quand on la porte à ébullition pour la cuisine. Mais pas tant pour la boire, quoi. Pour l'eau potable, on la prend au robinet des voisins. Dedans, là, on rentre par la porte ouest, donc t'as une pièce de 25 mètres carrés. Sur la moitié haute, il y a la chambre. Sur l'autre moitié, il y a la terrasse, plus sa petite extension, là, qui sert de couverture pour la petite terrasse d'en dessous. Et voilà, tu vois, au centre, on a mis la table à manger. À côté, on a mis tout le plan de travail avec pour cuisiner et puis des étagères pour tout notre matos. Le petit four et gazinière à gaz et la cuisinière à bois. Ça, on peut alterner été-hiver pour cuisiner comme pour se chauffer. Quoi.
Notre quotidien, c'est pas que la lutte, c'est pas que tout le temps on est dans le combat, on est frontal, on est sérieux, c'est politique. Il y a aussi des moments très joyeux et on essaye de les multiplier. Et notamment, là, on va fêter les 3 ans de l'ouverture du lieu du Haut Fait. Donc ça va être comme toutes les soirées qui se passent au Haut Fait, ça va être hyper joyeux, dansant, enfin la débandade la plus totale. et le projet initial, c'était donc une université populaire. C'était vraiment un lieu d'instruction, un lieu de transmission de savoir-faire, un lieu... où on reçoit des conférences, des débats, des projections, des artistes.
C'est un lieu d'accueil pour activités diverses et variées. Ce n'est pas forcément les habitants qui organisent tout. Tu peux venir avec un projet et puis le mettre en œuvre ici. Mais les habitants aussi proposent des choses. Donc, bref, au feeling, tu peux te retrouver avec des teufs, des concerts, des conférences gesticulées là, comme bientôt, des rendez-vous, genre, une fois, il y avait une rencontre avec des gens en lutte basque qui étaient venus ici, donc des infos-débats comme ça. Et des ateliers. À un moment, ils avaient fait un atelier machine à laver vélo. Là. C'est du grand délire. Tu mets ta lessive et puis tu...
Je crois que c'est à l'envers.
Là, tu fais tourner le tambour. Et quand je la maîtrise pas totalement bien, celle-ci, mais toi, tu as les vitesses ici pour faire accélérer le tambour, et après apparemment tu pouvais aller dans l'autre sens en changeant les trucs, bref, l'évacuation d'eau elle se fait là, tu vois, tac, par là, enfin bref, c'est du délire.
On est clairement un fief, et c'est vraiment l'idée même de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, puisqu'on a réussi à tenir longtemps et à mettre en place des activités agricoles qui nous permettent de produire un peu plus pour pouvoir redistribuer ailleurs, bah ouais, carrément, on va se le permettre, en fait, on va aller aider les copains et les copines à lutter contre tout ce qui nous paraît aberrant, et effectivement, quasiment tous les projets d'aménagement qui sortent maintenant sont aberrants, donc on sera là partout, en fait.
Gardien de la paix, tu sais que c'est bien mal que tu gardes derrière ton bouclier, ouvre grand les yeux et regarde. Ce sont tes enfants et tes sœurs sur les barricades. C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on a bavardé.
La violence, c'est pas la violence de la loi. C'est pas les forces de l'ordre. La violence, c'est quand on brûle une voiture de gendarmerie. La violence, c'est quand on blesse des policiers ou des gendarmes. Lorsque En 2012, Manuel Valls avait ordonné l'évacuation. La violence, c'est des exactions, toujours plus d'exactions. La violence, c'est quand on saccage une maison. La violence, c'est quand des gens qui travaillent autour, qui sont riverains de la ZAD, subissent régulièrement des pressions. C'est ça la violence. Moi, je suis contre la violence. Et tous ceux qui disent que la violence, elle est du côté des forces de l'ordre, finalement, ce sont ceux qui veulent justifier la violence.
La Noé Verte, ça a commencé par donc cette maison inoccupée depuis 6 ans, tout à l'est de la zone, quasiment sur le futur et très hypothétique échangeur qui permettrait le début des travaux. Et en fait, cette maison, elle était inoccupée depuis 6 ans parce que la famille qui y habitait avant depuis une bonne dizaine d'années, ne s'est pas sentie de lutter. L'ancien propriétaire racontait, oui, il se sentait seul, il se sentait un peu désarmé, il se sentait assez isolé, il ne voyait pas comment les habitants allaient pouvoir résister à ce projet et à l'État. Et donc, ils ont accepté la compensation de Vinci, ils sont allés s'installer ailleurs. Et puis finalement, cette maison, forcément, on la regardait un peu du coin de l'œil parce que sa position est franchement stratégique. Comme c'était important, c'était un moment où on était vraiment dans une guerre de communication médiatique. Il fallait que si on arrivait à ouvrir cette maison, il fallait la garder. Il fallait surtout pas que les forces de l'ordre puissent évacuer les personnes le lendemain ou le surlendemain et se gaussent dans les médias d'avoir repris un bout de territoire. Non, les 1650 hectares, on les a pris et on les garde et on les fortifie. Et donc la préparation de l'ouverture de cette maison, elle a été longue. Elle a concerné quasiment toutes les composantes de la lutte à un moment ou à un autre. Et ça nous a permis d'aller ouvrir la maison. On était plus de 300 ce matin-là à se réunir, à mettre des coups de masse très joyeusement dans les murs. On a ouvert tout ça tous ensemble et s'est entamé des barricades.
Là, on est dans un des deux champs de la Noé Verte où ici, ça va être les cultures. Là, on fait les cultures de maraîchage. Il y a des framboisiers qui commencent à montrer leur nez. Là. Il y en a une petite vingtaine de ce côté-là. Il y a des épinards, des fraises là, qui sont installées. Il y a des pois, des salades. Enfin, c'est tout récent, là, c'est un mois, le potager à un mois.
C'est une maison qui se trouve vraiment tout à l'est de la zone et du coup qui est assez importante à prendre, d'autant que les propriétaires qui étaient partis avant pour des compensations étaient hyper enchantés de savoir que cette habitation familiale dans laquelle ils avaient vécu pendant une dizaine d'années, je crois, ou 15 ans, un truc comme ça, soit reprise et qu'il y a un projet qui leur paraissait valable, on va dire. Et donc le projet principal ici, c'est une conserverie. Donc c'est faire du maraîchage et faire de la transformation. Et puis pour distribuer entre autres sur zone, entre autres à des cantines collectives et puis à des groupements d'achat solidaire sur Nantes aussi.
La conserverie, en fait, ça c'est le projet qu'on avait initié en fait en arrivant ici. Et maintenant on est petit à petit, comme on a un collectif de 12 qui viennent d'arriver en octobre, on prend le temps aussi à la fois de s'installer. Et à la fois de tout préparer parce qu'il n'y a pas de conserverie encore aujourd'hui. Mais ça n'empêche qu'on fait des transformations aujourd'hui, on fait des confitures, des chutneys, enfin toutes sortes de transformations par rapport à la saison.
Il y a des forces de l'ordre, il y a la loi, il y a la justice. Il y a des décisions de justice. Ces décisions de justice, elles doivent être appliquées. Voilà. Si demain je vais trop vite sur l'autoroute, je vais être verbalisé. Je ne vais pas prendre mon fusil pour aller tirer dans des gendarmes, etc. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que vous justifieriez le fait de ne pas me verbaliser parce que je suis un fou furieux et que je peux prendre mon fusil? Mais où en est-on arrivé pour accepter ce genre de raisonnement? Est-ce qu'on est en France ou est-ce qu'on est dans un pays en guerre civile?
Pour que les choses s'accélèrent et qu'il y ait une pression, un bras de fer qui s'engage, ébranler un petit peu l'ordre là. Donc par exemple bloquer des flux de circulation et de ce fait obliger à faire parler de la chose et obliger donc à être entendu et à réagir et à accélérer, bref. Donc forcément ça crée des moments de tension avec les riverains, les gens qui sont bloqués par le barrage. Et donc le mouvement à ce moment-là, pendant les barricades, c'était aussi affairé à se mettre à certains endroits pour expliquer en amont du barrage aux personnes qu'elles pouvaient prendre un autre itinéraire. Et avec des cartes, on avait préparé des itinéraires bis pour que les gens, pour que la gêne soit réduite. Alors on avait droit à tout, hein, des gens qui avaient les nerfs, qui nous insultaient, d'autres qui nous esquivaient, qui fonçaient et droit dans le barrage pour finalement faire un détour. Ceux et celles qui s'arrêtaient, avec qui on avait un échange cordial, voire de soutien des fois, de compréhension, et puis voilà, donc c'était vraiment un tout, hein, là-dessus. Et les barricades, ben, c'était être les personnes étaient là jour et nuit, donc il y a un roulement qui s'est organisé comme ça par lui-même. Tout un réseau de téléphonie, talkie-walkie et autres qui fait circuler l'info que, ben tiens, il y a un roulement, il y a un turnover sur tel endroit, et les personnes qui soutiennent l'idée viennent.
Regarde comme on vit, regarde comme on y croit, en construisant l'avenir dans des cabanes en bois. Crois-tu vraiment que c'est nous qu'il faut combattre, en faisant ça, c'est l'utopie que tu m'attrapes.